Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag.
Portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Loz Actuali où je remplace sur le pied levé Guillaume qui va peut-être arriver, ça sera la grande surprise. En attendant, nos chroniqueurs sont bien sûr là avec Eric. Salut Eric.
Bonjour les gens.
Salut Caro.
Bonjour à tous.
Et nos invités aujourd'hui pour parler de la start-up et dans le pré, la nouvelle édition qui va démarrer bientôt, bien sûr Vincent Gatin de Lozère Développement, un habitué. Salut Vincent.
Salut.
Et aussi, on la connaît, mais on la connaît pour cette émission, ancienne chroniqueuse Adeline Vitrol qui est partie chez Human Booster. Salut Adeline.
Oui, salut Ludo, Eric et Caro et salut à tous.
Voilà, donc nos invités qui vont un peu nous parler de cette nouvelle édition et également de leur structure après cette petite virgule. Alors, je suis novice un peu dans cette émission, Eric, hein, tu m'excuseras.
Novice tout court à la radio, non?
Ouais, j'ai failli parler de sport ou de littérature d'ailleurs, j'ai failli me tromper, mais non. Eric, de quoi vas-tu nous parler dans cette émission?
De biodiversité.
Ah, très bien ça. Caroline aussi, non? De biodiversité?
Bah, ça dépend du temps qu'on me donne, hein. Je choisirai en fonction du temps qu'on me donne.
Nos limites sur ton sujet aujourd'hui, nos limites.
Bon, mais je commence de suite alors, tu vas au moins...
Mais voilà.
Bah, tu t'en sors bien, hein, novice, quand même.
Je m'en sors bien, ouais, parce que alors, ça a mal démarré, mais ça va bien être pris, cette émission. Je vais poser une question à Adeline, comme ça, je vais pouvoir laisser la place à Guillaume.
Ouais, parce qu'en plus, il est un peu à court de souffle, il faut qu'il le retrouve d'abord.
Voilà, c'est ça. Avant de parler de la start-up et dans le pré de Lozère Développement, on connaît un peu cette manifestation. Human Booster, rappelle-nous dans quelle mesure ta structure intervient dans cette nouvelle édition et au final, qu'est-ce que Human Booster?
Ok, bah du coup, Human Booster, c'est un bureau d'études en gestion de compétences. Donc, on travaille sur plein de sujets autour de la compétence et l'ingénierie de la compétence. Donc, tout ce qui est formation, conseil. Et on travaille aussi autour de l'humain pour des projets de management. Donc, l'idée, c'est de travailler sur cette nouvelle édition de la Startup et dans le Pré. On était déjà partenaire dès le début de l'aventure. Mais cette année, on renforce encore un peu plus notre partenariat avec Lozère Développement et Adoc, notamment, et les autres partenaires. Et on vous expliquera tout ça en détail tout à l'heure.
Alors, Adoc, hein, c'est le nouveau nom de l'Agence régionale de développement économique, ex-Madeli.
Oui, ça change de nom beaucoup. Bonjour à tous. Oui.
Bonjour Guillaume. Bonjour
Guillaume.
Oui, bah, c'est effectivement notre première partie. On essaye de vous découvrir. Alors bon, Adeline, on te connaît quand même.
Un peu.
Mais ouais, elle n'a pas voulu préparer la rubrique hashtag quand même. Moi, je suis un peu déçue. Hein.
Ouais, ben oui, évidemment.
Je suis ravie d'être ici et de vous retrouver le plateau de 48 FM.
Eh ben oui, ben nous on est ravis de te retrouver aussi. Oui, donc tu nous as parlé de Human Booster, mais parlons un peu de toi quand même. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler justement dans un cabinet de développement des compétences, etc. Qu'est-ce qui t'a amené vers
ça? Alors le lien avec ma casquette d'avant sur le territoire de la Lozère, c'est quand même le numérique, parce que c'est quand même encore des projets autour du numérique sur lesquels j'interviens notamment, sur tout ce qui est ingénierie pédagogique et de formation. Donc aujourd'hui, chez Human Booster, je suis chef de projet en développement, notamment de projets transverses, formation et conseil. Voilà. Et Human Booster, dans ses activités, a une activité de formation, une activité de conseil, également une activité orientée très informatique, puisqu'on a des développeurs chez nous qui travaillent dans des ESN, donc des structures informatiques en tant que développeurs. Et puis on a un quatrième pôle d'activité et dont on reparlera tout à l'heure puisque c'est aussi un outil qu'on utilise sur le programme Startup et dans le Pré, puisque du coup on édite aussi nos propres solutions d'aide à la décision sur tout ce qui est positionnement professionnel notamment. Donc on aide notamment sur la dimension humaine à structurer des équipes les plus optimisées possibles dans leurs interactions en fonction des compétences et des aptitudes et des potentiels de chacun des individus qui la composent. Donc ça sera aussi l'objet de notre intervention sur la start-up et dans le prêt.
Vincent ?
Donc bonjour.
Lozère Développement. Alors Lozère Développement a un peu changé ces dernières années.
Oui, il y a eu pas mal de changements. Alors au départ, avant une loi qui s'appelle la loi NOTRe, Lozère Développement c'était l'agence de développement économique. C'était assez simple. On faisait la promotion du territoire, du département, et on essayait d'attirer des entreprises sur le territoire. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on ne peut plus accompagner les entreprises avec cette nouvelle loi.
Le et département coup, a perdu la compétence économique.
Pour résumer. Et du coup, en fait, Lozère Développement s'est un petit peu réorienté. Et donc, on fait principalement donc de la communication. On essaie de promouvoir la marque Lozère Nouvelle Vie. On essaie de promouvoir l'image du département à l'extérieur. Ça, c'est un premier volet. Et ensuite, on est toujours compétent pour faire la promotion des usages du numérique. Donc ça, c'est en complémentarité avec les plans aussi de fibrage du département.
Plutôt en lien avec l'économie, malgré tout.
En lien avec l'économie, mais c'est sur une brique numérique qui reste dans les compétences départementales. Et à côté de ça, il y a aussi une brique agroalimentaire avec la promotion des filières agro et notamment de la marque de Lozère. Donc on a cette promotion territoriale. Ça, c'est le cœur de Lozère Développement. Et ce qu'on faisait avant, donc l'accompagnement aux entreprises, c'est fait par ad hoc. On en a parlé tout à l'heure rapidement, mais globalement, c'est la région qui a récupéré ces compétences-là, qui renforce son activité sur le développement des entreprises. Et du coup, une partie de l'équipe de Lozère Développement est partie chez ad hoc, mais finalement, on reste toujours en Lozère, on travaille en symbiose, et le projet dont on va vous parler là, c'est un petit peu, il illustre ça, c'est-à-dire qu'on continue à travailler ensemble. D'un côté, on attire des entreprises, et de l'autre côté, ad hoc les accompagne. C'est complémentaire.
Donc, c'est les entreprises qui viennent vous appeler, ou c'est vous qui faites la démarche d'aller vers les entreprises?
Il y a les deux, mais on a une stratégie de promotion et de prospection. Donc on va vraiment rencontrer des gens sur des salons, on va essayer via le numérique, à travers des événementiels, d'augmenter l'aura. Donc là, on est vraiment dans une stratégie de conquête à travers l'image. Et puis à côté, on a toute une stratégie d'offres sur le site Lozère Nouvelle Vie avec beaucoup d'offres d'accueil. Et là, les gens viennent vers nous aussi parce qu'ils recherchent des bâtiments, ils recherchent des biens. Et là, ils viennent vers nous et on les aide justement à trouver les biens adéquats avec leur projet professionnel sur le département.
Et il y a des critères, un cahier des charges, quelque chose que vous imposez ou c'est vraiment ouvert?
Les gens sont libres de venir, hein, donc si jamais ils nous appellent, on essaie d'attirer. Après, on va avoir des critères par rapport à l'énergie qu'on va mettre en place pour attirer. C'est-à-dire qu'on va plutôt être compétent sur des entreprises qui souhaitent se développer sur le département et qui vont pas être en concurrence avec des entreprises endogènes. C'est-à-dire que si on a sur place un commerçant, par exemple, on va avoir un boulanger dans un village, l'idée c'est pas d'attirer un boulanger sur le même village. Donc on va plutôt aller chercher soit des secteurs qui sont complémentaires avec ceux qui existent déjà sur le territoire, soit des entreprises innovantes. En tout cas, on va essayer toujours de faire ça intelligemment et de pas aller chercher une entreprise qui peut mettre en difficulté d'autres entreprises du territoire.
Et finalement aussi rebondir sur des potentiels du territoire pas forcément totalement exploités, parce que la filière est pas suffisamment développée ou parce que...
Oui, ça c'est. On travaille beaucoup là-dessus. On y aura d'autres occasions pour en parler. Notamment là, on est en train de mettre en place un dispositif qui s'appelle le Studio, avec une réflexion sur des filières de prospective sur le département. Et on pense que dans le domaine du numérique, sur le bien-être, sur les valorisations des plantes, il y a des choses à faire. Et il y a des secteurs qui sont pas assez renforcés sur lesquels on va essayer de travailler, essayer d'identifier après des entreprises à attirer. Mais ça c'est un autre sujet, mais qui est assez complexe et qui nous occupe beaucoup.
Mais alors, Vincent, pour faire un petit peu plus connaissance avec toi, pour faire le parallélisme, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à Lozère Développement dans ces fonctions? Comment t'arrives là?
Alors, moi au départ, je suis musicien.
Tu viens de loin déjà.
Déjà je viens de Lyon, mais historiquement, donc moi je viens de Tours. Il y a deux trucs dans mon parcours. Il y a d'un côté, je fais pas mal de musique, je m'occupais de la promotion des groupes, je faisais des affiches, j'essayais d'attirer du monde sur les concerts. Donc ça, c'est vraiment un truc que je faisais avant.
Et que je continue
un petit peu à faire. Mais de là-dedans, j'ai développé pas mal de compétences de communication. Et à côté de ça, j'ai toute une filière assez costaud de géographe. Du coup, j'ai fait des études longues. Je suis parti au Maroc. J'ai essayé de faire une thèse en géographie. Et là, je me suis intéressé au développement des territoires. Et en fait, en Lozère, j'ai trouvé une espèce de compromis où finalement, il y a de la promotion du territoire, il y a de l'intelligence territoriale et en même temps, il y a de la communication. Et du coup, en alliant un peu ces deux facettes, je m'éclate à Lozère Développement. Voilà, on va voir ça comme ça.
Là, si vous souhaitez mettre des visages sur ces deux noms, vous pouvez aller retrouver ces petits clips qui avaient été dévoilés lors des Assises du numérique. On en avait parlé à ce micro. Et où Adeline et Vincent payaient un peu de leur personne pour faire la promotion de la Lozère. C'est des clips très sympas.
Oui. On les remettra sur la page.
Voilà,
Facebook.
On les remettra sur la page.
On reconstitue le binôme aujourd'hui.
Je pense qu'il va falloir les montrer les clips pendant la start-up et dans le pré.
Oui. On verra.
Oui.
Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler un petit peu avec tout ça. Bon, je vous propose qu'on passe à la première chronique et puis on reviendra plus en détail sur cette start-up et dans le pré dans la deuxième partie de notre émission. Eh ben c'est parti, c'est à toi Eric.
Alors ça sert à quoi d'être un oiseau? Je me pose la question. Vous vouliez vous réincarner en piaf? Eh bien réfléchissez bien, parce qu'elles sont plus que moyennes les nouvelles du front. Au Moyen-Âge, ils étaient le décor sonore de la vie. Et même dans les maisons, quand ce qui servait de fenêtre attendait l'invention du double vitrage, eh bien l'oiseau était la bande-son de nos ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a appris une fois de plus? Juste l'effondrement de la biodiversité. Rapport d'experts internationaux dans le monde et en France. Près de 80% d'insectes en moins en 30 ans. Il n'y a qu'à voir les pare-brises de nos bagnoles. Avant, il te fallait t'arrêter tous les quarts d'heure pour les laver. Maintenant, tu peux voyager des heures sans avoir un impact d'insectes à te mettre sous le bec d'un piaf affamé. Et nous, les oiseaux, qui tentons de gazouiller à la campagne, eh bien ce ne sont plus des champs. C'est un institut médico-légal. Un tiers d'oiseaux en moins en 15 ans, selon le CNRS et le Muséum d'Histoire Naturelle. Parce que si cela continue, il n'y a plus que dans les musées que l'on trouvera la biodiversité. Mais les chiffres de la police, de Monsanto et de la FNSEA, réduisent cette part à seulement 5%. Le suivi des oiseaux communs est pourtant sans appel. Pour la biodiversité en France, pour le moment, c'est trop calme. Arracher les badigeonner les terres de béton ou de poison pour les sols, hormis les musées qui se frottent les mains, et Monsanto qui fait du chiffre inversement proportionnel à celui qu'il donne pour la perte de nos piafs, on n'a pas vu grand-chose. Alouette, gentille Alouette, on va te plumer, tout court. Et pas que le bec, on te l'a dit, il faut un monde calibré, normé, technocratisé, phytosanitarisé. Et autres rimes en « et », à condition d'avoir des têtes de mort sur les bidons. Tout doit être numérisé, même tes chants, à défaut de pouvoir encore les entendre dehors. Et qu'est-ce qu'on va faire tout ça, hein? Qu'est-ce qu'on va faire tout cela si on se retrouve avec un monde désoiselé? Et je peux toujours m'égosiller, il faudrait être gai comme un pinson ou espiègle comme une pie pour sourire encore suite à la découverte de ce rapport alarmant sur la disparition des oiseaux, alors que les prévisions pessimistes de quelques scientifiques nous avertissaient depuis longtemps. Et le saviez-vous? Moi, le moineau, hier encore je sautillais jusque dans vos jambes, entre les tables, aux terrasses des cafés. Moi, le pinson, je préférais marcher dans l'herbe des parcs avec les enfants à l'ombre des grands arbres qui ne sont pas encore tous arrachés. Moi, le merle noir, je dispute à grands coups de bec jaune un vieux quignon de pin avec les pigeons du quartier. Alors, ils accompagnent depuis si longtemps nos déambulations en ville, à la campagne qu'on n'y prend plus garde, avec nos yeux rivés sur nos smartphones. Mais nous avons bien tort, car les oiseaux font discrètement leurs valises. Au fin fond de la forêt, on n'entend plus le coucou. Et le printemps risque fort d'être de plus en plus silencieux, les hirondelles n'ayant plus envie de revenir nous l'apporter. Et malgré tous les livres et tous les rapports depuis tant d'années, nous n'avons toujours pas appris à lire, même entre les lignes. Alors demain, les oiseaux, seulement dans les cages ou les zoos, si notre terre n'arrive même plus à nous nourrir, nourrir les oiseaux, comment pourra-t-elle nous nourrir, nous? On jurera, mais alors un peu tard, que l'on ne nous y reprendra plus.
Voilà.
Merci Eric.
Merci Eric.
On entend un petit oiseau quand même là derrière en fond.
Le double vitrage, c'est pas encore très bon. Quand même.
C'est le moment de la première coupure musicale sur cette belle chronique. Et qu'est-ce que vous nous avez choisi ?
Alors du coup, pour le son que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. C'est un groupe qui s'appelle La Faute à Voltaire, qui est un groupe clermontois. Et la petite particularité, c'est que la chanteuse et joueuse de basse du groupe est une de mes nouvelles collègues chez Human Booster. Et du coup, je voulais aussi lui faire un petit clin d'œil et une dédicace. Et c'est aussi un groupe qui vient d'enregistrer son premier opus, qui a fait la première partie également du concert de La Rue qui est à nous il y a quelques semaines sur une scène clermontoise. Et du coup, c'est aussi un projet que Human Booster soutient. Voilà. Donc, La Faute à Voltaire et la chanson que Ludo a sélectionnée, je crois, c'est La Tendresse, finalement. Parce que du coup, j'avais proposé le titre qui s'appelle Dealer de temps. Mais Ludo a considéré qu'il préférait un autre titre de l'album que je lui ai envoyé. Donc, je crois qu'on écoute La Tendresse, qui est également aussi une composition de Marie-Laure Bourgeois, donc, qui a écrit ce titre.
Voilà. Allez, on écoute, c'est parti.
J'ai de la tendresse à revendre, mais je voudrais pas la brader. J'ai des caresses et des baisers. Je cherche juste un cœur à prendre. J'ai dans la tête tout plein d'envie, de jolis rêves, de petites folies, que j'ai à cœur de vivre à deux, de partager en amoureux. J'ai de la tendresse à revendre, mais j'en ai marre du marché noir et ras-le-bol de me faire avoir pour des histoires de contrebande. J'ai eu mon compte de baisers volés que le proprio vient réclamer. Je veux surtout plus voler personne, juste prendre ce qu'on me donne.
Allez, deuxième partie de ce numéro 33 de Los Actuali. On va parler de la start-up Pédant le Pré. Alors peut-être Vincent d'abord, pourquoi relancer ce projet cette année?
Mais moi j'ai une première question plus simple encore.
Qu'est-ce que c'est
la start-up Pédant le Pré? Ouais, franchement, parce que moi on la suit depuis longtemps, depuis l'édition 2013, la première édition à Lozère. Mais c'est dur d'expliquer aux gens ce que c'est que la start-up Pédant le Pré. Donc j'aimerais bien que le spécialiste nous vulgarise ça, comme ça après je pourrais copier.
C'est d'autant plus dur qu'il faut le vivre. Mais
voilà. J'ai l'impression que c'est
je confirme.
Et moi je me tâte du coup cette année à postuler pour être dans les 48.
Ah bah écoute Caro, si tu veux. Si tu as un projet
pour quelque chose,
ou contribuer à un projet.
Je pense qu'en tant qu'ambassadrice, de toute façon, tu dois pouvoir.
Non mais même
pour avoir un passe.
Le vivre comme candidat, je pense.
Il faut vraiment le vivre. C'est une expérience.
Alors, tout simplement, c'est un concours. C'est un concours de création d'entreprise. Donc l'idée, c'est simplement, parmi vous, il y en a peut-être qui se disent, tiens, un jour, j'aimerais monter une boîte, j'ai une idée.
Ou j'en ai pas.
Mais en tout cas, j'ai envie de tenter une aventure. J'ai envie d'essayer de changer quelque chose dans ma vie. Et peut-être qu'être mon propre patron ou partir dans une aventure avec un associé, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Et en fait, la Startup Pédant le Pré, c'est un concours qui vise à rassembler pas mal de personnes qui sont dans cette dynamique-là, qui sont dans une dynamique de vouloir passer le pas et essayer de créer une entreprise, de les rassembler et de les accompagner dans ce moment-là pour savoir s'ils doivent y aller ou si quelque part ils doivent pas y aller. Mais en gros, on essaie de les accompagner à ce moment crucial. Et donc, on crée un événement, on met tout le monde à huis clos, une cinquantaine de candidats avec une trentaine de coachs, on enferme tout le monde et on essaie de faire un concours d'idées. C'est-à-dire que ceux qui ont des idées d'entreprise vont essayer d'attirer des gens qui veulent rejoindre des équipes. Et ensuite, on va finalement organiser les choses pour que les différentes idées s'affrontent au fur et à mesure du week-end. Mais de toute façon, dans la bienveillance, hein, l'idée, c'est vraiment d'être bienveillant et de soutenir les idées. En fait, ce micro-écosystème où finalement on a rassemblé beaucoup de biodiversité, comme on parlait tout à l'heure avec les oiseaux, c'est-à-dire on crée un champ de tous les possibles où on met tout le monde ensemble et là il peut se passer de belles histoires, des belles créations d'entreprises, des belles rencontres entre futurs associés. Et c'est ça finalement qu'on fait, c'est à la fois un concours d'entreprise, j'ai une idée, je viens concourir pour essayer de la défendre et en même temps je m'ouvre pour finalement faire des rencontres et rendre ce projet viable, parce que l'idée c'est pas tout. S'associer, c'est aussi important que d'avoir une bonne idée. Donc c'est un petit peu ça.
Ouais. Juste du coup quand même, quand on dit qu'on enferme les gens, certes on les enferme pendant 48 heures, mais on les enferme quand même dans un cadre exceptionnel.
C'est à la ferme des Cévennes cette année. Donc
l'année dernière c'était à Saint-Rome-de-Dolan.
Belle prison quand même.
Saint-Rome-de-Dolan et puis là l'édition précédente à la baraque des Bouviers. Ouais, donc on enferme les gens certes, mais dans un cadre exceptionnel quand même que nous offre la Lozère. Donc voilà.
Et alors, start-up, ça fait penser tout de suite à des choses qui sont, alors tu l'as dit tout à l'heure Adeline, souvent très numériques, souvent très, on pense tout de suite high-tech, on pense start-up, on pense aussi jeunesse, alors est-ce que c'est une obligation ou pas?
Non, en effet, start-up, c'est quand même un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est un peu à la mode également aussi. L'idée plutôt derrière le mot start-up, c'est plus d'ailleurs sa traduction finalement de l'anglais au français, c'est démarrage un peu rapide. Donc c'est un peu l'idée de créer un projet rapidement, constituer une équipe projet et booster entre guillemets une idée. Mais on a des très beaux exemples sur les éditions précédentes où les projets sont pas nécessairement numériques du tout. Alors c'est pas forcément les lauréats, mais c'est des très beaux projets quand même. Je pense à la bière 48 par exemple. Je pense à
Ciel
Morandi. Mais même Ciel Morandi, les premiers lauréats.
Les premiers lauréats, je pense au projet Obistreet aussi, on en a beaucoup entendu parler aussi sur le territoire. Donc voilà, il y a aussi plein de projets qui ne sont pas nécessairement 100% très, très tech ou très numérique. Quoi.
Ah ben ouf, donc vraiment, je me pose la question.
Mais voilà. Ils n'ont pas répondu sur l'âge, hein, quand
non,
même.
Non, hein. Ils sont très, très polis, diplomates, j'ai remarqué.
Non, il y a de...
Je me permets de mettre le doigt là où ça fait mal, mais...
Non, il y a de tout public, en l'occurrence, et de tout horizon à la fois en termes d'âge et de diversité aussi de profil. Et c'est notamment un des sujets qu'on travaille, nous, avec Human Booster.
C'est justement ce que tu disais tout à l'heure. C'est un point qui est important, et c'est ce que disait aussi Vincent, c'est cette rencontre de différents profils et de composition d'équipe qui finalement est à la fois une idée, mais c'est aussi cette équipe qui se construit.
Alors, il y a plein de composantes qui font que la start-up est dans le Pré à Lozère est vraiment une expérience unique. Moi, je suis un peu habitée par le sujet, mais ce qui fait aussi une grosse différence sur les éditions en Lozère, c'est cette dimension humaine, parce qu'on travaille vraiment au-delà du projet de création d'activité, c'est-à-dire sur un business plan, un modèle économique, des partenaires, etc. On travaille vraiment sur l'humain qui constitue vraiment l'équipe projet. Et en l'occurrence, c'est là où, depuis le début, Human Booster amène un peu sa pierre à l'édifice, c'est qu'avec les outils qu'on développe, on permet de travailler les équipes en faisant des composantes les plus complémentaires possibles et de se dire, moi en tant que porteur de projet ou en tant qu'équipier, j'ai pas nécessairement toutes les composantes, et donc quelles sont les personnes avec lesquelles je peux m'associer au moins le temps d'un week-end pour essayer d'être le plus complémentaire possible. Et l'année dernière, l'équipe lauréate, c'était notamment une de celles qui étaient les plus complémentaires en termes d'aptitude, de potentiel. Voilà, donc c'est aussi un des sujets, l'humain, et sécuriser un petit peu l'humain autour du projet start-up, ça fait partie des thématiques qui nous tiennent à cœur.
Oui, parce que finalement, c'est des compétences qui sont que tout le monde n'a pas, mais qui sont quand même nécessaires au projet, finalement.
Alors, il y a la question des compétences, mais il y a aussi la question des aptitudes. Oui, des aptitudes, oui, tout à fait. Et des potentiels et des talents de chacun, dans nos modes de fonctionnement aussi, nos personnalités. Voilà, donc on va travailler. S'il y a quelqu'un qui va être plus tactique, par exemple, ou quelqu'un qui va être plus, qui va avoir 1000 idées à l'heure, mais qui les concrétise pas, ça peut être intéressant de s'associer avec quelqu'un qui va être peut-être plus opérationnel et pour l'aider du coup à constituer une équipe qui soit plus complémentaire.
Ouais, et cette complémentarité, justement, on essaie de la renforcer dans cette édition-là, parce que ça se passe en Lozère, mais c'est pas un événement uniquement lozérien, c'est un événement régional, c'est-à-dire que on va détecter des projets partout, dans toute la région, dans toute l'Occitanie, et on invite ces gens à venir en Lozère, mais du coup, ça renforce des porteurs de projets lozériens. Ça peut permettre aussi à des gens qui sont en Lozère, qui voudraient s'engager dans une entreprise, dans un projet d'entreprise, de rencontrer des porteurs de projets de l'Aveyron, du Lot, d'autres territoires, et de s'associer. Donc c'est avec l'ouverture à l'échelle de la région, on augmente encore les possibles et justement la diversité des profils. Et la complémentarité aussi. Donc ça, c'est le gros esprit autour de cette édition. Il est autour de l'ouverture et de l'entraide.
Du coup, vous avez des ateliers territoriaux sur toute la région, là, en préambule de la start-up.
Oui, voilà, c'est ça. À partir du 13, on démarre les ateliers territoriaux. Donc, il y en a à Rodez, il y en a à Cahors, il y en a à Saint-Lizier, il y en a... là, je les ai de tête. Il y en a un à Mende.
On mettra celui de Mende, notamment.
Alors, Rodez le 13 avril, Cahors le 13 avril. Rodez le matin, Cahors l'après-midi. Mende le 18 avril à 9h. Alès le 18 avril à 17h. Saint-André de Sangonis le 19 avril. Et Saint-Giron le 20 avril à 9h. Voilà.
Et là, tout le monde peut s'inscrire.
Là, tout le monde peut s'inscrire. Et l'objectif, c'est justement de pas faire des déçus et puis de bien expliquer ce qu'est la start-up et dans le pré. Donc, les gens viennent sur une demi-journée. On leur explique à la fois comment viabiliser un projet d'entreprise. Donc, ça, c'est la partie, l'apport de visionnerie. Et après, comment s'entourer. Et c'est la partie de Human Booster. Donc, Adeline, dont Adeline vient de parler. Et donc, ces ateliers-là, ils permettent déjà de dégrossir un petit peu le projet et de voir si le candidat est mûr pour s'inscrire, s'il y a un intérêt. Et donc là, on explique tout. Et donc, à Mende, on fera le point à Pollen sans aucun souci avec tous les candidats potentiels ou les gens qui souhaitent devenir candidat mais qui n'en sont pas sûrs. Et donc,
toi, Caro, par exemple, tu pourras venir à l'atelier de Mende si tu concrétises.
Tu es même obligé de venir.
Donc ça, c'est la première étape qui va être un peu l'identification des candidats. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Alors bon, déjà, juste préciser qu'on n'est pas obligé d'assister aux ateliers pour s'inscrire. On peut déjà avoir des idées de projets ou en tout cas des envies de participer au week-end Startup Pays dans le Pré qui se tient d'ailleurs les 24, 25 et 26 mai 2018.
Effectivement, c'est bien de le dire.
Voilà, donc les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez aller sur le site internet dédié qui est la www.lastartuppaysdanslepré.fr/2018. Donc c'est quand même un peu le point de départ, cette tournée territoriale. Et après, ce qui se passe, c'est que du coup, nous, on va aussi travailler à regarder un peu les projets, imaginer justement des complémentarités déjà dans les personnes qui se proposent aussi en tant qu'équipiers, parce que c'est vraiment important de montrer qu'il y a à la fois des porteurs de projets, mais des gens qui ont juste aussi envie de participer au projet. Ah, je crois que Vincent, tu nous quittes, c'est ça ?
Ouais, je suis désolé, j'ai un petit bébé qui est malade, il faut vraiment que j'aille m'en occuper. Je te fais confiance pour raconter tout ça.
Merci Vincent, en tous les cas.
Merci bien.
Alors,
oui, donc voilà, donc du coup, après la tournée, il y a une étape aussi un petit peu de compilation de toutes les idées, de tout ce qu'on aura recueilli aussi en tant qu'apport d'expertise. Et puis, il y a le week-end en mai. Alors, je tiens aussi à dire que, alors Vincent le disait, c'est très important ce projet, et depuis le début, c'est vraiment un projet qui est ouvert, dans le sens où, en effet, c'est un événement qu'on ancre en Lozère parce que ça a du sens, parce qu'il y a vraiment un terreau fertile aussi à faire germer des idées de projet et ces types de formats-là, parce que c'est très important. Vous savez ma conviction pour les territoires ruraux, mais l'innovation peut naître ici, et même l'innovation naît ici pour un certain nombre de sujets. Donc c'est vraiment un événement qui a du sens à se tenir en Lozère, mais c'est un événement qui est très ouvert. Alors on le voit encore plus cette année avec la dimension régionale, mais également une dimension nationale, parce que la grosse différence aussi sur cette édition, c'est qu'on a également des coachs qui viennent du groupe Accenture. Donc, je ne sais pas si ça parle à nos auditeurs, mais qui est un groupe mondial qui travaille notamment sur tout ce qui est très numérique pour le coup, mais pas que, aussi conseiller en organisation. Et donc, ils nous mettent à disposition, entre guillemets, 12 coachs experts sur plein de sujets. Il y a des experts en innovation, mais il y a aussi des experts dans plein d'autres thématiques. Et qui viendront en binôme.
Ce sont des seniors.
Pour certains d'entre eux, ce sont des seniors. En tout cas, ce sont des personnes qui sont seniors dans leur activité et dans leur poste actuel. Et donc, on a vraiment quand même là un niveau assez élevé d'expertise.
Parce que je pense, ça m'a fait penser parce que je l'ai vu ce dimanche et j'avais été au lancement de la start-up jeudi ou vendredi, donc c'était très proche. Mais je ne sais pas si vous avez vu dimanche le film Le Stagiaire, mais je pense qu'on devrait tous avoir un stagiaire senior pour nous aider, donc je trouve que c'est une super bonne idée.
Et là où du coup il y a vraiment aussi cette idée de complémentarité, c'est que ces 12 experts du groupe Accenture seront en binôme avec les experts de l'accompagnement du réseau ad hoc Occitanie, qui sont vraiment aussi des professionnels de l'accompagnement à la création d'activités. Et donc mutuellement aussi, il y aura un apport d'expertise et un accompagnement pour les porteurs de projets et les équipes projets qui sera vraiment complet, quoi. Et Human Booster, en amont de la start-up et dans le pré, travaille avec les coachs Accenture sur un programme qui s'appelle Cultivateur d'innovation, où on a fait du coup l'ingénierie pédagogique sur un format très innovant, où on va déjà les outiller en amont. On a une formation de 2 jours les 4 et 5 avril à Paris, où se tiendra d'ailleurs également une petite soirée de partenaires à la Maison de la Lozère le 4 avril au soir. Et où du coup, on va acculturer déjà ces 12 coachs à toutes les thématiques de l'innovation, de la création d'activités, et puis de les mettre un peu déjà dans l'esprit start-up Lozère. Voilà.
Moi, j'ai deux petites questions pratico-pratiques. Oui. C'est premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité d'inscriptions.
Alors, il n'y a pas un nombre limité d'inscriptions, mais il y a un nombre limité de participants. Ouais. Donc, en effet, autour de 48, c'est 48 cette année. On s'est dit que c'était le nombre maximum, voilà, symboliquement de participants. Donc, en effet, si jamais on avait, beaucoup, beaucoup de demandes, il y aurait une sélection des projets. Alors, d'où l'intérêt aussi de travailler sur la dimension humaine, dans le sens où la sélection ne se fera pas nécessairement que sur le meilleur profil, mais en effet, à la complémentarité des aptitudes, puisque dès l'inscription, les participants ou les futurs participants, les candidats en tout cas, passent le diagnostic de positionnement Equinox, donc qui est l'outil que Human Booster met à disposition de la start-up et dans le pré, pour déjà un petit
c'est
peu identifier les potentiels de
moi,
chacun.
J'ai eu droit il y a 2 ans à faire le test et c'est effectivement très intéressant.
Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent avoir un petit aperçu sur le site equinox.fr déjà pour un tout petit diagnostic, une synthèse très, très basique, en tout cas déjà des premiers axes du diagnostic, mais c'est un travail intéressant en tout cas.
Et ma deuxième question, c'était en termes de financement. Qui c'est qui finance le...
Alors le projet est porté par Lozère Développement et Adhoc dans sa majorité. Puis du coup les partenaires Human Booster et Visionary viennent en complément sur cette édition. Et après on a des partenaires comme le Crédit Coopératif par exemple, le Crédit Agricole, Accenture évidemment aussi. Et puis je vais peut-être en oublier, mais je crois que globalement... en tout cas, l'appel à partenariat EDF également, c'est vrai.
Il y avait le représentant l'autre jour.
Tout à fait, oui.
Et effectivement, le Crédit Coopératif, c'est le président du groupe Crédit Coopératif, qui est le président du jury final, Jean-Louis Bancel, qui est déjà venu sur les précédentes éditions. Et puis la Caisse régionale du Crédit Agricole qui dote aussi en numéraire l'équipe lauréate.
Et qui est très investi hein,
depuis le début, qui est partenaire représentant.
Avec le président et le directeur départemental qui sont là au long de l'événement.
Et puis en effet, le nouveau partenaire de cette année avec EDF. Et puis si jamais il y a des partenaires qui ont envie de contribuer, évidemment, je pense que c'est toujours possible.
48FM est partenaire hein, historique de la start-up et dans le pré. On a eu grand plaisir à faire les deux premiers épisodes. C'était moi qui y étais. J'ai une grande tristesse cette année de ne pas pouvoir être là, puisque il y aura en même temps le congrès national des radios associatives qui aura lieu à Montpellier et j'en suis l'organisateur, donc ce sera un petit peu difficile d'être à deux endroits à la fois.
Tu pourras retrouver les petites vidéos, comme c'est déjà le cas d'ailleurs sur l'édition précédente. Voilà. Il y a les interviews.
Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de comment se déroule le week-end?
Oui, alors
on fait que travailler.
Alors.
Ah oui, alors, ça c'est intensif.
Très, très intensif.
Ah oui,
c'est,
non, là, voilà,
mais faut le dire.
N'envisage pas d'aller faire
les brebis du
tricot ou faire une activité, d'aller te balader sur le cos ou faire une descente en canoë, bon, c'est non, pas non. ça.
Alors, c'est très intensif, mais il y a vraiment un esprit aussi très convivial. Et quand je dis que c'est une expérience à vivre, c'est vraiment le cas parce qu'il y a aussi vraiment une émulation autour des équipes, mais aussi le lieu aussi se prête au fait que, en effet, on va avoir des coachs un peu experts qui viennent de groupes, en l'occurrence internationaux, des experts du réseau Madeli ou enfin anciennement Madeli ad hoc. Et tout le monde est en sweat, tout le monde est en jean basket et vraiment il y a cette notion de bienveillance, de partage, et ça sera encore, j'espère, le plus le cas cette année, puisque cette édition en plus est placée sous le signe de l'entraide, avec éventuellement, enfin très probablement, des conférences qui se tiendront le jeudi après-midi sur ce sujet. Il y a deux ans, on était sur la thématique du bonheur, on avait eu la joie d'avoir un conférencier sur ce sujet, et là du coup on aura en théorie un ou une conférencière sur ce sujet également. Donc c'est à la fois très convivial mais très sportif.
Alors le jeudi soir, c'est justement plutôt la présentation sur l'aspect justement du partenariat, les profils, la restitution aussi des profils qui ont été faits par Human Booster sur un petit peu les gens en fait, parce que dès le lendemain matin il y aura la présentation des idées de projet, ceux qui sont avec une idée de projet ou ceux qui ne le sont pas, et finalement la constitution des équipes qui se fera le lendemain matin. Donc le soir, c'est déjà d'avoir un peu ce positionnement pour pouvoir avoir une nuit pour y penser et ensuite rebondir le lendemain. Après, les équipes se constituent. Elle travaille toute la journée avec les coachs qui interviennent, qui apportent des conseils, etc. Il y a un petit repas le midi, mais c'est express, hein, parce que l'objectif, c'est
que ça bosse. Faut quand même pas oublier que c'est 48 heures pour sortir un projet, et pour la plupart qui, derrière, après, amène quand même vraiment une vraie aventure entrepreneuriale. Donc l'idée, c'est quand même d'aller déjà très très loin dans la création, en tout cas, valider au moins un vrai projet. Donc
il y a une première étape de premier retour devant le jury en fin de journée du vendredi, hein, si je me trompe pas. Donc qui donne un peu ça, les points à approfondir, les sujets qui sont les points un peu positifs, les choses à creuser, les choses à mieux présenter, etc. Et puis le vendredi soir se fait, je crois que c'était plutôt des témoignages, notamment des coachs, etc., sur un petit peu ce qu'ils ressentent. Et puis le samedi, c'est la partie plus présentation qui se prépare, avec un support original un petit peu dans ce monde tout numérique, Adeline.
Tout à fait. Le samedi, donc en effet, il y a la préparation des pitchs, en tout cas de la présentation finale devant le jury. Et donc, il faut que les équipes préparent des présentations très très courtes. En général, c'est 3-4 minutes maximum. Et donc, le support principal, c'est le carton, les post-it, un stylo. Et voilà, donc il y a vraiment
des feuilles de carton d'un mètre carré. Et voilà.
Travailler à l'essence de son projet et présenter quelque chose de très très court. Donc en effet, dans les grandes lignes, le jeudi après-midi, on aura les tables rondes sur la thématique de l'entraide, avec le soir l'accompagnement sur la dimension potentielle, aptitude, hein, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure auprès des candidats. Comme ça, le vendredi matin, ils se constituent en équipe et puis ils attaquent vraiment de travailler. Et il y a vraiment beaucoup d'allers-retours tout au long du week-end avec les coachs, avec aussi... d'autres partenaires qui seront là sur place aussi, qui ne seront pas nécessairement coach attitré, mais qui pourront venir sur de l'apport d'expertise ponctuelle aussi, puisque les équipes doivent valider des étapes hein, dans leur projet. Donc à chaque fois, il y a aussi des allers-retours pour valider des étapes. Et puis le vendredi soir, malgré tout, il y a un moment un peu convivial, hein, puisqu'il y a en général toujours une petite soirée aussi. Et puis le samedi, le grand rush et le stress du jury final.
Et tout s'arrête le samedi soir ou il y a un accompagnement encore après ?
Alors non, tout s'arrête pas le samedi soir parce que, enfin, pour le week-end, oui. Après, donc, pour les projets lauréats, en l'occurrence, en général, dans les dotations, il y a également de l'accompagnement. Donc, ils continuent à être accompagnés ou en tout cas à être boostés dans leurs différentes étapes à venir derrière. Et puis, pour ceux qui sont pas lauréats mais qui ont vraiment révélé un projet, une équipe, c'est aussi en général des gens qui sont à nouveau accompagnés, soit par ad hoc sur le territoire, soit sur la Lozère avec Apollène notamment, ad hoc antenne Lozère ou Lozère Développement. Donc c'est des projets pour certains qui continuent à vivre quand même dans le temps.
Oui, parce que finalement c'est une action de prospection et donc ça permet aussi d'identifier des personnes qui peuvent être potentiellement sur ce projet-là, peut-être même sur un autre par la suite. Enfin, en tous les cas, ça identifie des personnes potentiellement porteurs de projets.
Il y a plein de belles histoires qui ont continué après la start-up est dans le pré. Ben, en l'occurrence, la bière 48, on peut en boire si on veut aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui s'est abouti après le week-end.
Qui fait dans un autre dispositif, mais je le dis parce que c'est demain mercredi matin, ils font matinée portes ouvertes. Alors, c'est sur le Causse d'Auge. Dans le cadre de la semaine de l'entreprise avec la CCI. Donc voilà, si vous voulez aller rencontrer d'anciens candidats et découvrir cette bière 48, n'hésitez pas demain matin.
Et puis c'est vrai que pendant le week-end, entre guillemets, les équipes qui sont là ont à disposition tous les accompagnants, tous les acteurs et tous les experts autour de la table réunis pendant 48 heures. Donc c'est aussi l'occasion de faire du réseau, de rentrer en contact avec les gens qui peuvent les accompagner demain. Voilà, c'est vraiment aussi un booster, entre guillemets, aussi de projet. Voilà.
Très bien, ben voilà, on rappelle le site www.lastartup.fr 2018 et la journée sur Mende pour la présélection, tous les gars pour se mettre un peu dans le bain le 18 avril à 9h. Donc les rendez-vous sont pris et tout de suite on passe à la chronique de Caroline. Allez Caroline, je crois que tu vas nous raconter une petite balade parisienne qui t'a permis de rencontrer quelqu'un.
Oui, alors, ça me fait très plaisir qu'Adeline soit là parce que c'est la première qui a réagi sur Facebook en me disant « enfin ». Voilà, donc elle avait suivi toute l'histoire.
Tu sais que tu n'as aucune chance en plus. Hein.
Je sais. C'est sûrement ce qui rend les choses encore plus charmantes.
Je suis vraiment ravie que le hasard du calendrier fasse que je sois là aujourd'hui pour ta chronique, Caro, parce que vraiment, c'est... Voilà.
Bon, il est question de Frédéric Lopez.
Voilà, vous savez combien je suis fan inconditionnel, je l'ai souvent dit ici. Je l'ai souvent invité à ce micro. Alors, je ne sais pas s'il m'a entendu, mais enfin, il est venu en Lozère faire une déclinaison de Terres Inconnues. Puisqu'il lance le 10 avril, toujours sur France 2, une déclinaison française de son émission fétiche, une grosse émission à succès depuis 10 ans. Et donc, il va décliner sur le territoire français. Et pour ce premier opus, un peu test, il a choisi avec son équipe Les Cévennes. Voilà, donc j'ai été invitée la semaine dernière à la projection de presse à Paris. Et j'ai enfin pu rencontrer Frédéric Lopez et une partie de son équipe. Alors, difficile de vous en parler vraiment parce que je veux pas spoiler quand même l'émission du 10 avril. Il vous faut la regarder, bien évidemment. Juste quand même resituer un peu les choses. Dire que ce n'est pas une émission sur la Lozère, ça se passe en Cévennes avec des profils quand même très typés. Hein, donc ne vous attendez pas à raciner des ailes en Lozère, c'est pas ça. Les images, bien évidemment, sont sublimes, mais c'est parce que la Lozère est belle, m'a dit une élue du département à qui je racontais ma petite escapade parisienne. Oui, la Lozère est belle, même en hiver, puisqu'ils sont venus tourner au mois de novembre. Vous allez le voir dans le film, ils se sont particulièrement gelés, je pense. Mais c'est bien, parce que ça montre la Lozère aussi sous une autre facette, et c'était vraiment le souhait de Frédéric Lopez de ne pas montrer les Cévennes en été. Je pense qu'il le dira en direct dans l'émission, mais son souhait, c'est pas que les gens viennent passer 15 jours en vacances. Alors l'homme est un peu fasciné, et je dirais même un petit peu fasciné par cette idée du retour à la Terre. C'est ce qui a un peu motivé cette déclinaison française de Terres Inconnues. Il le dit, il lit en ce moment beaucoup Michel Serres, hein, il le cite à tout bout de phrase, on va dire, et il explique que Michel Serres a écrit qu'il y a aujourd'hui plus qu'1% des Français qui vivent de la Terre, alors qu'il y en avait des dizaines de pourcents il n'y a pas si longtemps. Et ce retour à la Terre de certaines personnes, visiblement, le fascine vraiment à l'excès. Donc voilà, c'est ce qu'il veut montrer dans cette nouvelle émission. Alors avec toujours cet aspect très tourné vers l'autre, hein. On fait parler les gens, on les écoute, on fait découvrir des personnalités hors du commun. Voilà, ça reste le principe, ça reste la grande idée. Ça restera la même formule à la télé, c'est-à-dire la projection du film, hein, 1h45 quand même de film, 150 heures de rush qu'apparemment ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à sélectionner. Un invité quand même, hein, Malik Bentala, l'humoriste, qui apporte beaucoup, vous verrez, au film. Alors, avec la différence, là, pour le coup, avec Terres Inconnues, c'est que il n'y a pas de problème de traduction. Donc, l'humoriste se lâche et il fait des vannes à tout bout de champ. Et il est drôle. Et c'est vrai que le film est du coup sort de l'aspect documentaire par ce rire qu'amène Malik très régulièrement, avec beaucoup d'émotion aussi, hein, puisque vous le verrez, je ne le dis pas, mais il parle de lui, il parle de ses proches, et c'est assez sensible. Voilà, un bon moment, bien évidemment, comme à chaque fois avec Fred Lopez. Je suis pas très, ouais. Très objective, hein, je le conçois bien.
Est-ce que ça va être un programme aussi attractif finalement que ce qu'il a eu l'habitude de faire?
Alors, pour ce premier opus, j'ai un peu l'envie de dire oui quand même. Alors en plus, j'étais à cette projection presse à Paris avec ces journalistes spécialisés télé parisiens que je connais un petit peu par ailleurs, qui sont souvent un peu blasés, qui ont un peu tout vu, sont partis aux quatre coins du monde. Alors je m'étais dit, c'est bon, ils vont être blasés de tout ça. Et ils ont bien aimé le film. Ils ont, j'ai l'impression que cette bienveillance que Frédéric Lopez a pour les autres, les journalistes parisiens l'ont aussi pour lui, quoi. Donc du coup, alors c'est sa grosse inquiétude, hein, savoir comment ce film va être perçu ici en Lozère. Ça l'inquiète beaucoup parce que son idée, c'était vraiment pas de faire les derniers des Mohicans. Ils ont casté 300 familles et personnes et ils ont eu énormément de refus. De gens qui justement leur ont dit non, 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 nous on veut pas être, on veut pas qu'on soulève le couvercle du parc. Donc voilà, c'est. Et il est inquiet de ça, il est inquiet de savoir comment ça va être perçu, mais tout en sachant qu'il faut aussi que ça plaise quand même à la majorité des spectateurs. Hein. C'est un programme qui fait,
oui,
qui
c'est
fait
ça.
Des millions de vues.
Moi, je te propose de l'inviter à nouveau pour qu'il vienne justement, qu'on fasse le débrief.
Pas de souci. Alors,
avec lui.
Est-ce qu'on sait pourquoi il a choisi la Lozère en première
Alors, ils ont visiblement, ils avaient plusieurs territoires sous le coude. L'aspect parc national habité lui a plu dans cette idée justement de présenter des gens qui soient au retour à la terre, mais dans une terre préservée. Je pense que c'est ce qui a emporté l'adhésion. Ils ont d'autres idées, hein. Je pense que le numéro 2 est en route. Voilà. Alors, bien évidemment, comme il nous l'a dit, hein, ils n'iront jamais à Palavas et sur le littoral français, bien évidemment. Ce n'est pas le concept.
Très bien, très bien. Donc, quand est-ce que ça passe?
Alors, c'est le 10 avril à 20h50. Alors, sur le plateau...
Enfin, 21h hein, maintenant.
Oui, 21h, ouais. Donc, sur le plateau, la douzaine de Lozériens qui sont dans le film. Hein, donc, il y a la famille qui accueille Frédéric Lopez et Malik. Il y a tous les gens qu'ils ont rencontrés au fil de leurs aventures sur la terre lozérienne. Il y aura la présidente du département qui viendra aussi, qui n'a pas vu le film et qui le découvrira en direct et qui viendra apporter un petit peu son regard lozérien sur tout ça. Alors, je ne vous le cache pas, j'espère être dans le public en direct pour pouvoir vous raconter tout ça dans un nouvel opus.
J'ai une dernière question. Est-ce que tu as eu son numéro de téléphone ou...
Non, pas encore, c'est pour ça que j'y retourne.
T'es invité à dîner chez lui.
Bien, ben on suivra ça avec attention, évidemment. Et donc, rendez-vous le 10 avril sur France 2. Très bien. Et bien, tout de suite, après la virgule, c'est le moment du portrait chinois. Tu ne le connaissais pas, le portrait chinois?
Alors non, c'est une nouveauté de l'édition 2018 de Los Actuali. Et du coup, je n'ai rien préparé.
Mais c'est normal.
Voilà, je ne sais pas.
C'est le principe. Et de toute façon, ça sert à rien de préparer maintenant parce que, de toute façon, on ne les fait pas forcément ceux qui sont là et pas forcément tous. Donc, voilà.
Est-ce que je peux dire en complément quand même, parce que je voudrais le dire à ce micro si jamais il revenait. On pourrait dire que ça serait par le biais de 48 FM comme la première fois. Je l'ai invité en Aubrac maintenant qu'il est venu en Cévennes. Hein.
D'accord. Mais on est toujours prêt à l'accueillir. Hein.
Voilà, exactement.
Nos studios sont grands ouverts. Donc c'est le moment.
Je veux bien être invité ce jour-là également.
D'accord. Bon, mais ok. On voit qu'il a plus de succès que nous, hein. Mais bon.
Mais non.
On voit que là il y a du monde. Hein. Ça, là, pas de problème.
Le portrait chinois. Alors, si tu étais un animal.
Ouh là là. Alors si j'étais un animal...
Ou un animal que tu aimes bien.
Eh bien du coup, je serais un oiseau. Voilà, comme ça pour faire lien aussi avec la chronique d'Eric, il en faut. Donc j'espère que je serai pas une des dernières à voler, mais en tout cas un oiseau.
Et quel oiseau? Un petit, un gros?
Un vautour de Lozère. Voilà.
Avec tes grandes ailes déployées. Un loisir?
La randonnée. Parce qu'on a plein de beaux territoires, justement, et de terres inconnues à découvrir à pied. Donc, ça serait la randonnée, on pourrait dire.
Ton endroit préféré en Lozère, justement, où tu pourrais randonner?
Mon endroit préféré en Lozère, c'est le moulin de mes grands-parents, voilà, dans le Val d'Aunès, qui tourne encore grâce à la passion de mon père, notamment, et de quelques autres amis des moulins. Donc, j'aime beaucoup cet endroit.
Un endroit préféré dans le monde?
J'ai pas encore eu la chance de visiter tous les pays du monde, mais un de mes endroits très particuliers que j'ai beaucoup aimé, c'est un endroit en Australie qui est sur la Grande Barrière de Corail. Et voilà, une île où j'ai eu la chance d'aller et qui est juste magnifique.
Une drogue favorite?
Alors, le chocolat, clairement, ou en tout cas les sucreries, les desserts.
Une qualité, un défaut?
Alors une qualité, je suis lozérienne. Et un défaut, je suis lozérienne aussi. Voilà. Parce que les deux...
J'aime bien.
C'est ma meilleure qualité et mon pire défaut.
Un plat préféré?
Alors c'est forcément un dessert. Et je pense que je dirais une tarte aux framboises.
Un verbe ou un mot?
Envie, enthousiasme.
Un héros ou une héroïne de fiction?
Oula, c'est dur ça.
Beaucoup de monde a du mal avec celui-là.
Oh, je sais pas du tout. Je saurais pas répondre.
Bon. On termine avec le rêve.
Un rêve? Oh, j'en ai plein des rêves, c'est compliqué, c'est vraiment très très dur.
Faut peut-être qu'on enlève le mot fiction pour le héros ou la héroïne.
Alors disons rêve pouvoir faire une émission de Nos Terres Inconnues avec Frédéric Lopez. Voilà. Je fais que le rêve de Caro en fait.
Il va y avoir concurrence.
C'est bien, c'est des rêves réalisables en plus.
C'est ça.
Bien, et alors peut-être une deuxième coupure musicale, ça sera aussi ton choix, je crois qu'on écoute.
On réécoute La Faute à Voltaire, donc.
Voilà, un deuxième morceau.
Super.
C'est parti.
Petit terrien heureux, ou de mauvaise fortune, toi qui nourris le vœu de décrocher la lune, tu portes ton bagage, tu cherches le plaisir, car tu vis sans présage, tu crois en l'avenir. Et monsieur, n'oublie pas qu'on est bien peu de choses, je sais pas si ça t'aidera à voir la vie en rose. Alors on reste ici à faire les 100 pas, pressés comme des fourmis, comme si on savait pas. Passeur de temps, les tracas en suspens, évidemment, nous ne sommes que des passants. Passablement, si la vie en dépend, évidemment. Sérieux, qui croit en son destin, tu cultives peu à peu ton petit bout de jardin. On y voit des semeurs de rêves et de graines, côtoyer des donneurs de leçons et de haine. Parfois il est bien mieux de passer son chemin que toujours écouter, penser le genre humain. Alors allons chantant et savourons les choses, nous pour passer le temps. On joue avec la prose. Passeur de temps, les tracas en suspens, évidemment, nous ne sommes que des passants. Passablement, si la vie en dépend, évidemment, évidemment. Rejoins-nous en chantant et savourons les choses, nous pour passer le temps. On joue avec la prose, passeur de temps, les tracas en suspens, évidemment, nous ne sommes que des passants.
Des passants,
passablement, si la vie en dépend,
la vie
évidemment,
nous ne sommes que des passants.
On ne sent pas des passants,
passeurs de temps,
les tracas en suspens,
les tracas en
évidemment.
Suspens.
Nous ne sommes que des passants,
on sent pas des passants.
Si la vie en dépend,
la vie évidemment.
Nous ne sommes que des.
La troisième partie de l'émission, la meilleure partie, hein, toujours, hein, celle où c'est nous qui parlons. Non, je
t'as
dis
bien
ça,
raison.
Je dis n'importe quoi. Bien évidemment, c'est le but de cette émission, c'est de faire parler des gens qui font l'actu en Lozère. Donc, c'est notre petit moment, mais voilà, ce n'est que ce petit moment. Alors, la rubrique hashtag, je fais ça sous ton...
Je l'attends avec impatience.
Sous ta haute autorité.
Bah, c'était facile cette semaine, j'imagine, quand même.
C'est-à-dire que, voilà, déjà, il y a eu le lancement de la Startup et dans le Pré la semaine dernière. Donc déjà, ça a saturé un petit peu les réseaux sociaux lausériens.
Tant mieux. Tout numérique, j'ai du mal à y croire.
Et puis, deux actus aussi qui ont été marquantes ces derniers jours. L'Assemblée générale des JA avec le départ de Julien Tuféry après plusieurs de nombreuses années de présidence.
6 ans.
Voilà. Et donc l'arrivée de Vincent Bonnet, c'est ça, comme nouveau président. Et puis donc l'Assemblée générale des chasseurs aussi. C'était ce samedi,
avec le président national.
Voilà. Des événements donc qui ont été sur les réseaux sociaux. On peut aussi saluer dans les événements en cours, mais ils sont pas trop sur les réseaux sociaux, sans doute parce qu'ils sont aussi dans des endroits un peu reculés. La petite roulotte qui bat son plein, c'était notre invité de la dernière émission. Et
alors pas sur les réseaux sociaux, mais alors j'y étais hier.
Ben oui, on a vu ton article.
Voilà, et j'ai posté deux vidéos dans la journée qui ont été partagées, vues. Enfin, malgré tout, c'est un événement très très suivi.
Oui, c'est effectivement un grand moment.
Toujours aussi bien.
Bon, ben voilà.
Ça y est, on en a fini avec le hashtag neige.
Mais semble-t-il.
Enfin, ce matin, ça neigeotait quand même encore un peu. Donc,
il y a eu de la neige.
Ne crions pas victoire.
Mais pour l'instant, pas trop de... Enfin voilà, il y en avait plus, tous les quatre, dans l'actualité de ces derniers temps. Et puis le hashtag de la semaine nationale et internationale, c'est un hashtag un peu triste, le hashtag Arnaud Beltran. Donc... du nom de ce lieutenant-colonel de gendarmerie qui a pris la place d'une otage dans ce supermarché de Trèbes, donc dans notre région. C'était la semaine dernière. À noter qu'il y a demain un hommage à la gendarmerie à 11h30 et à midi l'ensemble de la population lausérienne, à l'invitation des élus du territoire, appelle à un rassemblement sur la place Urbain 5 pour honorer la mémoire des victimes et de ce gendarme qui bénéficie aussi d'un hommage national aux Invalides demain. Voilà. Donc c'était pas l'actu drôle, mais il le fallait quand même. Voilà.
On n'a pas un hashtag Facebook par exemple?
Mais
sur l'actu dont va nous parler Eric après tout à l'heure, je fais un peu de teasing, mais non, c'est pas ressorti. Bon.
Mais pas forcément dans les plus après c'est une sélection forcément.
Tout à fait.
Voilà. Et tout de suite, on va parler justement de la revue de presse. Eric, c'est à toi.
Non, moi je voulais juste revenir un peu sur la polémique Facebook, sur les données Facebook. Et alors, je suis tombé sur un article de Vincent Matalon, journaliste pour France Info, qui a voulu justement dresser l'inventaire des informations détenues à son sujet par le plus grand réseau social du monde. Donc résultat, un article vertigineux qui donne le tournis et nous invite à la plus grande prudence. Donc accéder à ces données personnelles sur Facebook, c'est assez simple. Et après, on se rend compte, là, lui, il s'est rendu compte qu'il avait pu accéder à un fichier de 507 mégaoctets, contenant textes, sons, photos, vidéos et pas mal d'autres détails qui, de son propre aveu, suscitent pas mal de malaise. Donc, en parcourant le contenu de ce gigantesque fichier, il en a fait mesurer tout ce que Facebook sait de lui et de ses contacts, puisque, en effet, ça a répertorié également tous ses contacts, des vieilles adresses... vieilles adresses Hotmail du début des années 2000 jusqu'au numéro de téléphone de sa grand-mère qui n'a ni smartphone ni ordinateur. Donc voilà.
Ni
compte Facebook forcément. Donc, c'était assez impressionnant. Et même quand on veut quitter Facebook, finalement, on est toujours fiché dans Facebook. Il suffit d'aller sur n'importe quel réseau social et de cliquer sur le bouton j'aime et finalement, Facebook peut récupérer l'information. Donc voilà, faut toujours faire attention à ce qu'on met sur Internet, sur quoi on clique et les photos qu'on partage. puisque de toute façon elles sont accessibles par le plus grand nombre. Et donc on l'a vu là ces derniers temps, qu'en plus elles étaient utilisées à des fins commerciales et électorales. Et donc voilà. Donc voilà. Donc après, je vous invite à retrouver l'expérience donc de Vincent Matalon, et on mettra le lien bien sûr sur le Facebook de l'émission.
Mais c'est vrai que cet article est particulièrement flippant. Et effectivement, tout le monde a pu et avoir la même façon de faire, effectivement, au tout début de Facebook, de par exemple lier avec son agenda, enfin son répertoire téléphonique, et ce qui fait que bah, effectivement sa grand-mère s'y retrouve dedans, etc. Mais c'est effectivement assez, enfin voilà, il faut être prudent effectivement, et je crois que il y a un vrai sujet d'éducation aux médias et à Facebook et aux réseaux sociaux pour les jeunes générations.
Voilà, ouais, pas que Facebook, ouais, en effet, parce qu'il y a de plus en plus aussi d'applications sur smartphone qui utilisent des données personnelles de santé ou autres. Pareil aussi sur nos comptes mail,
ouais,
etc.
Des choses qui nous localisent. Voilà, même Snapchat qui nous localise. Ouais, voilà, donc
c'est toujours le même sujet de comme tu dis, comme tu le soulignes, Guillaume, de l'éducation aux médias et de travailler à se protéger tout en utilisant aussi les avantages de tous ces outils.
Caroline, revue de presse, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors, je vais vous parler d'un article qui est paru lundi dans le Nouvel Observateur. Si je vous parle de Marthe Gauthier, de... Je l'ai perdu, pardon. Ah. De Rosalind Franklin... et de Lise Meitner ou de Frida Rothschild-Robbins. Est-ce que ça vous dit quelque chose à tous les quatre ?
Alors moi, je dirais, mais je ne suis pas sûre 100% de moi, qu'il s'agit des premières femmes informaticiennes ou développeuses ou
non,
en tout cas
qui
ont travaillé dans le secteur du numérique.
Non, c'est des femmes qui ont subi l'effet Matilda. Alors savez-vous ce qu'est l'effet Matilda ?
Pas du tout.
C'est le fait de zapper les découvertes des femmes scientifiques. Avec des chiffres qui sont quand même assez hallucinants. Les femmes représentent seulement 3% des lauréats du prix Nobel en sciences. Seulement 48 femmes sur 923 lauréats, dont 27 organisations, ont reçu l'honorifique distinction depuis sa création. On rappelle cet article qui a été écrit par Émilie Brouze. Alors, pour vous donner une petite idée de ce que je vous disais tout à l'heure, alors Marthe Gauthier, c'est la scientifique qui a découvert... la trisomie 21, et qui a été rendue publique par son collaborateur, et c'est lui qui a reçu les prix. Et puis pour les trois autres, pareil, des scientifiques assez célèbres dans leur découverte, mais malheureusement pas par leur nom. Alors, Marthe Gauthier, dont je vous parlais, qui a découvert la trisomie 21, est l'une des 75 femmes célébrées dans le livre du collectif Georgette Sand, Ni vu ni connu, aux éditions Hugo et compagnie, un livre sorti en octobre 2017, l'année dernière. Cet ouvrage veut redonner une place dans l'histoire à des scientifiques, artistes, intellectuels, militantes ou aventurières oubliées. Les autrices de cet ouvrage ont eu du mal à regrouper des photographies de ces femmes, ce qui n'est quand même pas anecdotique, hein, c'est qu'il y a un vrai déficit des archives de femmes dont on commence seulement à prendre conscience, regrette Michel Perrault. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, aux États-Unis, je crois que c'est le New York Times qui s'est rendu compte au moment du 8 mars que la plupart de ces nécrologies, hein, ils font des grandes pages, étaient essentiellement consacrées à des hommes. Et depuis le 8 mars, ils essayent de se rattraper. Et il y a donc chaque jour la nécrologie d'une femme célèbre aux États-Unis qui n'a pas été faite en temps et en heure. Je trouve ça, voilà, c'était un petit peu en même temps un petit coup de gueule parce que je trouve ça tellement, tellement, tellement hallucinant.
Très bien, merci Caroline. Ben, pour moi, c'est une actu régionale encore qui m'a marqué cette semaine. Alors, je crois que le premier article que j'ai vu, c'était France 3 Occitanie qui le publiait sur cette bataille dans un amphithéâtre de la fac de droit de Montpellier suite à un mouvement social étudiant, une réunion qui effectivement s'éternisait un petit peu avec une forme d'occupation des lieux, mais plutôt a priori sans violence. et qui se termine par l'arrivée d'une quinzaine de personnes cagoulées avec des armes, alors pas des armes, enfin des bâtons, des battes de baseball, des choses comme ça pour chasser ces étudiants. Alors on sait toujours pas trop qui sont ces personnes masquées. Est-ce que ce sont d'autres étudiants? Est-ce que ce sont des enseignants? Est-ce que ce sont, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a eu en tous les cas une attitude plutôt équivoque, on va dire, du doyen de la fac de droit et des forces de sécurité de l'université. Bon, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une enquête administrative et policière pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, mais je pense qu'il fallait en parler. Je trouve que c'est pas très logique que dans un lieu comme l'université ce genre de choses puisse arriver. L'université a l'habitude de formes d'expression politique, étudiante, etc. et les solder par ce genre de violence ne semble pas tout à fait lié au débat d'idées qui doit pouvoir exister dans des lieux comme sont les universités. En tous les cas, voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Voilà.
Le doyen a démissionné et oui. La fac n'avait pas rouvert hier. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais
non, elle ne rouvrait, a priori, elle n'ouvrait pas aujourd'hui. C'est dans Midi Libre, le président de l'université, Philippe Auger, disait justement que lui, il souhaitait que
le calme revienne.
Il y a eu des manifestations encore hier devant l'université, donc pour lui, le calme n'était pas revenu et il souhaitait que les choses se remettent. Et voilà, lui, il souhaitait vraiment que les choses soient mises à plat, en prenant une position tout à fait de hauteur, parce que c'est vrai qu'il n'était pas là, en disant que les enquêtes devaient effectivement identifier les rôles de chacun et préciser vraiment la situation. Voilà. Je ne sais pas si il y a d'autres. Adeline, est-ce que tu as une revue de presse, non?
Tu
viens
en
touriste comme ça.
Je viens complètement en touriste, mais j'aurais fait quelque chose aussi, je pense, sur la question des données personnelles, en effet, ouais.
Bon.
C'est toujours des sujets qui me.
Et oui, c'est vrai que ce grand scandale Facebook et avec la campagne de Donald Trump, effectivement, c'est pas très très sympathique.
Et le Brexit aussi, a priori.
Allez.
Et tout l'argent qu'ils nous doivent.
Oui. Bon, ben voilà.
Oui,
ben,
il faut
en rajouter en plus.
Hein. Une paire de coups de gueule aujourd'hui, quand
même. Non, mais c'est vrai que la violence, tout type de violence, surtout, c'était pacifiste en face. Et, c'est-à-dire, toute répression par la violence, surtout dans l'ambiance générale actuelle, c'est-à-dire, imposer de la violence, j'ai beaucoup de mal à comprendre aussi.
Mais bon, après ce que tu disais, les facs de droit ont toujours eu cette réputation d'être très à droite, voire, moi j'en ai connu qui étaient très à
droite.
Je viens de Lyon quand même. Et aujourd'hui le conflit s'est étendu avec cette confrontation face à Paul Valéry. On sait que les facs de sciences humaines sont quand même plus à gauche. Donc on va fêter les 50 ans de mai 68. Voilà, c'est des choses qu'on a déjà connues, déjà vues.
Oui, enfin ça.
Malheureusement, je ne dis pas que c'est bien.
Ça fait.
Hein.
On peut aussi.
Ne résout rien.
Et on peut aussi citer l'attaque d'un lycée à Paris par le GUD. Là aussi, c'est pas forcément des choses qu'on a envie de voir dans ces lieux d'enseignement et de savoir qui devrait être quand même un petit peu exempt de violence. Voilà. Bon, sur ce, je pense que on va vous donner rendez-vous dans 15 jours.
Alors, je ne serai pas là, hein, puisque je serai, je l'espère, à Paris.
Voilà, bravo. Et peut-être qu'on enregistrera un peu avant, je ne sais pas, on verra. Bon, voilà, on verra si on arrive à faire cette émission, puisqu'on était décalé d'une petite semaine pour cette émission aujourd'hui. Et puis, on vous souhaite en tous les cas vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc avec le hashtag LoseActuali, sur la page LoseActuali, sur Facebook, et puis, rediffuser. Le jeudi à 19h, le mardi à 12h30. Merci à tous, à bientôt.
Et puis rendez-vous en mai.
À bientôt.
À la start-up et dans le pré.
Mais évidemment. À bientôt. Merci.
Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag
portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.